Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Je crois qu'on va commencer. Simplement un petit détail technique, on m'a demandé si l'image pouvait être un petit peu plus nette au vidéoprojecteur. Donc je transmets à notre technicien qui est dans la salle. Je ne sais pas si c'est possible, mais voilà, je me fais le porte-parole de votre demande. Bon, mais écoutez, merci d'être là. Merci à l'ABF et tout particulièrement au groupe régional ABF Rhône-Alpes de leur invitation. Quand on a suggéré qu'on pourrait peut-être essayer de témoigner, de rendre compte de l'expérimentation qu'on a menée sur cette résidence de design de service, on avait dit que ça serait bien de faire une formule plutôt rencontre ou atelier pour que ça soit un peu intimiste, convivial, voilà. Et là, on se rend compte que c'est convivial, pas de problème. Intimiste, on va le créer. Donc voilà, merci. Visiblement, cet atelier a attiré du monde. Je voudrais qu'il n'y ait pas de malentendu. Je ne sais pas, une vision désirable de la médiathèque, on est bien d'accord, hein, dont on va parler. Qu'est-ce qu'on entend par là? On a repris d'ailleurs les termes qui sont un petit peu proposé par le design de service, dont on parlera un petit peu dans cette séance, même beaucoup, sachant que je vais présenter nos intervenants. On n'a pas prétention à être spécialiste ou à faire un cours théorique sur la question du design de service lors de cet atelier. Il s'agit plutôt de vous montrer comment ça a un peu bouleversé d'abord notre regard et ensuite nos pratiques, et comment on essaye de faire nôtre cette expérience pour continuer en tant que professionnel, même s'il n'y a pas que des bibliothécaires, heureusement, autour de la table. Donc j'en profite pour remercier et présenter les personnes qui participent à la table ronde. D'abord, Françoise Duboclard, qui est chargée de mission livre et lecture et politique territoriale au Transfo, qui est l'agence culturelle de la région Auvergne. Remercier également Damien Roffa qui se définit comme designer de services publics pour l'agence Design Territoire Alternative, et puis remercier également Jean-Christophe Lacasse qui est chef de projet de la future médiathèque intercommunale de la communauté de communes Entre-Dor et Allier, centrée à Lezoux. Jean-Christophe pourra en dire deux mots. C'est entre Clermont-Ferrand et Thiers, Thiers étant à l'est de Clermont-Ferrand, pour ceux qui ont des souvenirs lointains. Tout le monde n'est pas obligé d'avoir lu tout le Jean Anglade non plus, donc voilà, je le précise. Voilà. Donc merci de votre présence, et moi je me présente très rapidement. Renaud Ayoutz, je m'occupe du développement numérique à la médiathèque départementale du Puy-de-Dôme à Clermont-Ferrand. Donc. On a intitulé le travail qu'on a fait ensemble entre le mois de mai et le mois de entre le mois de mai 2012 et le mois de février 2013, les nouveaux usages de la médiathèque. Alors c'est intéressant cette thématique commune qui avait été retenue, parce que dire qu'il y a des nouveaux usages, ça veut dire implicitement qu'il y en a d'autres plus anciens ou peut-être premiers, voire plus légitimes. Est-ce que c'est ça que ça veut dire dans notre schéma mental? Est-ce qu'il y aurait des usages dits légitimes, en tout cas légitimés par l'habitude, et puis des nouveaux usages qu'il conviendrait de prendre en compte pour la médiathèque? Donc c'est cette thématique qu'on a souhaité aborder avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire de parler de nouveaux usages et d'essayer de l'aborder d'une manière différente? Alors, de quelle manière on l'a abordé? On a eu la région Auvergne, pour tout dire, qui était à l'initiative, donc la région et son agence culturelle, le Transfo, ont souhaité interroger cette question des usages numériques et dans les médiathèques, comment on pouvait les insérer, comment ça repositionnait les bibliothécaires, qu'est-ce que ça provoquait comme question, pas seulement d'infrastructure, évidemment, de formation, etc., etc. Et pour ce faire, plutôt que d'essayer de commander une énième étude, un énième rapport, il y a eu l'opportunité de travailler avec un organisme, qui est une association qui s'appelle la 27e région. Alors, en même temps que je vous dis ça, je vous renvoie, si vous le souhaitez, donc, au site hein, de la 27e région. En l'occurrence, là, je suis sur la partie blog que vous pouvez voir. Donc la 27e région, sous cette forme associative, essaye avec d'autres de promouvoir des façons nouvelles d'envisager les politiques publiques et notamment le cycle de l'action publique. Donc bien entendu avec des professionnels, mais en ouvrant à des équipes pluridisciplinaires qui apportent d'autres regards, d'autres façons de procéder. Notamment issu du design, on en parlera un petit peu. Donc, sur la proposition de travailler avec la 27e région, donc proposée par la région Auvergne, très rapidement, un partenariat s'est établi avec la médiathèque départementale, puisque la question était de travailler ça, les nouveaux usages en médiathèque. Et plutôt que de faire ça entre nous, sachant que ni la région ni les médiathèques départementales, comme vous le savez, ne reçoivent de public. Donc c'était un petit peu paradoxal de vouloir aller dans des démarches participatives sans être en interface directe avec le public. On a saisi l'opportunité d'un projet de médiathèque intercommunale sur le Zoo qui émergeait et sur lequel on avait été très tôt associé l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire la DRAC, la médiathèque départementale et la région. Et on a donc mené une expérience qui s'appelle une résidence design de service. Il y en a eu d'autres et vous pourrez le voir en parcourant le blog de la 27e région. Il y en a eu sur plusieurs thématiques, mais c'était la première fois que c'est la thématique abordée par la 27e région était autour des médiathèques. La 27e région a donc constitué une équipe de 4 personnes pluridisciplinaires, dont Damien. Et je vous laisserai découvrir l'équipe dans le petit livret que je vous montrerai. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une résidence design de une résidence 27e région ? C'est d'abord une méthode, d'abord une équipe pluridisciplinaire, et puis une méthode qui consiste d'abord à s'immerger sur le territoire. Donc ça s'est concrétisé par 3 semaines complètes de présence sur le territoire qui étaient réparties sur 6 mois. S'immerger sur le territoire pour permettre de dépasser un petit peu la vision statistique ou de loin qu'on peut en avoir à travers les études. Et puis co-concevoir avec les habitants. Donc là, ça voulait dire co-concevoir avec ce qui serait peut-être les futurs usagers de la médiathèque, puisque de médiathèque, il n'y en avait pas à ce moment-là, il n'y en a toujours pas, on est en chantier. Et au-delà de cette co-conception, faire des maquettes, prototyper, de manière presque très artisanale, hein, je le dis de manière totalement assumée, mais qui permettent vraiment de tester, de construire avec les personnes qui seront concernées par les services que la puissance publique souhaite prendre en charge. Et puis enfin, sans oublier, une partie de documenter son projet. C'est donc l'objectif de ce livret. Vous pouvez découvrir sur le blog duquel je suis parti, le blog de la 27e région, à partir des nouveaux usages, la possibilité de télécharger ce plan et puis d'accéder également, vous n'hésiterez pas à me demander à la fin si besoin, le livret. Donc voilà, j'ai dressé un peu le tableau très rapidement parce que j'aimerais laisser la parole aux intervenants. Mais à travers ces étapes, à travers ce qui a été mené, à travers la façon dont on a impliqué la population, ça nous a posé beaucoup de questions, qui sont des questions qui rejoignent toutes celles qu'on se pose toutes et tous, qui sont parfois expérimentées dans plein d'autres bibliothèques, ou qu'on voit venir de l'étranger, mais souvent ça reste des mots ou peut-être des concepts, et comment on les fait nôtres dans un territoire donné, dans un contexte socio-culturel donné, dans notre contexte aussi français, de la façon dont les bibliothèques travaillent et agissent. Donc voilà, ça, de ce point de vue-là, ça nous a permis d'aller au-delà des mots, au-delà des grandes idées, et surtout avec la population dès le départ. Alors, j'ai prévu de poser des questions à aux intervenants qui sont là, trois questions, et de vous laisser chaque fois la possibilité de poser des questions. On aimerait avoir un échange assez participatif pour le coup. Mais avant, je veux leur laisser chacun un petit mot s'ils voulaient compléter sur leur vision de sur ce qu'est une résidence, parce que j'en ai fait une présentation un peu personnelle et rapide. Si, je ne sais pas, peut-être Damien, pour commencer en tant que designer au service, si tu veux dire un mot supplémentaire sur ce qu'est une résidence design de service dans le cadre de la 27e.
Ouais, donc très rapidement, ça me permettra de parler des méthodes aussi propres au design de service, qui est un métier pas très connu et qui est en train de se définir, puisqu'il existe depuis 4 ans en France. En fait, on passe un peu par 3 phases. Alors, ce n'est pas forcément chronologique, c'est 3 phases de travail qui peuvent s'entremêler, mais il y a une phase en fait, d'analyse de terrain, d'analyse action, où le principe, c'est qu'on est sur le territoire, on rencontre les acteurs locaux, des habitants, et on échange avec eux autour de leurs besoins, de leur vision d'une médiathèque, là, plus largement, de leur rapport à la lecture. Ça nous a emmené parfois dans des sujets comme la pêche à l'épervier, qui est une pêche au filet. On se demandait bien quel rapport il y avait avec la lecture, mais ce n'est pas grave. Donc on accepte en fait d'aller butiner comme ça sur le territoire différentes informations et de parler de différents sujets. Il y a une phase qui est plus de la production d'idées. Donc en l'occurrence, sur ce sujet-là, il y a beaucoup d'idées en fait qui circulent déjà autour des médiathèques, de l'avenir des médiathèques, des nouvelles idées de services, des nouvelles idées d'action. Donc on a eu une phase, on va dire, où on est allé chercher toutes ces idées-là. Et puis, voilà, on en a proposé d'autres, les habitants en amenaient. C'est pour ça qu'il y avait un espace d'affichage où les gens pouvaient venir noter leurs idées sur des post-it et nous les donner. Et puis, il y a une phase, du coup, d'approfondissement des idées qui passe par des expérimentations. Donc, les expérimentations, là, sur ce sujet-là, c'est-à-dire, bon, la médiathèque, elle n'est pas construite, il n'y a pas encore 4 murs, mais il y a déjà des choses, il y a déjà des services et des actions qu'on peut tester avec les moyens du bord. Donc ça, c'est important. L'idée du design de service, c'est que l'action publique peut s'incarner sans faire des grandes études, des grandes analyses, des grandes planifications. On peut amorcer des changements comme ça par des petites expériences qu'on prend le temps de regarder, d'analyser ensuite. Et si ça n'a pas marché, ben on dit bon, tant pis, on oublie ça, on n'en parle plus. Et si ça marche, on dit c'est génial, on continue. Et puis, en général, ça marche un peu. Il y a des choses qui marchent et des choses qui ne marchent pas. Donc on tire des enseignements et on ajuste le tir. Donc voilà un peu les trois traits méthodologiques du design de service qui ont animé cette résidence.
François, si tu veux compléter. C'est pas obligé, mais si tu veux dire un mot là-dessus sur la résidence avant de passer aux questions, non ?
Non, c'est pour l'instant. Non.
Jean-Christophe ? Non. Ton micro est d'ailleurs complètement.
Non, moi je veux juste vous dire en termes de précision parce que donc Renaud a présenté le Zoo. Donc juste un petit mot, c'est une communauté de communes, environ 18 000 habitants, territoire rural. Le Zoo, c'est 6 000 habitants. Voilà. Le projet de résidence, comme Renaud l'a souligné, a été aussi permis de travailler très très en amont sur le projet, en associant l'ensemble des partenaires concernés par le projet. Et ça a été c'est un vrai plus à l'heure actuelle. Voilà.
Alors du coup, là, je rebondis, la première question que j'avais envie de poser, en général, quand on commence à prévoir un établissement, qu'on commence à écrire le projet d'établissement, le projet scientifique et culturel, de l'analyse du territoire, on ressort des grands besoins, des objectifs de politique publique, et puis on a l'habitude de réfléchir en termes de contenu, de besoins documentaires, de type, de segments de collection, évidemment de médiation aussi de ces collections, mais tout part, il me semble encore, de la réponse à des besoins documentaires identifiés liés à des objectifs de politique publique. Et la question que je voulais poser, c'était en quoi cette résidence qui était orientée nouveaux usages a été l'occasion d'abord d'interroger et de travailler sur les usages dans le cadre de la conception de ce futur établissement et de la définition de son programme, de son projet. Et donc de partir un peu peut-être à rebrousse-poil de notre méthodologie classique. Peut-être Jean-Christophe, je peux te laisser là.
Aussi, juste en termes de précision, je profite. Donc, ce que vous voyez, donc, le plan des usages qui a été dessiné en clôture de résidence. Il y a eu en amont de ça le travail du programmiste, hein, classique. Le programmiste a travaillé avant les résidences, avait travaillé en gros 6 mois, était déjà recruté, avait déjà travaillé sur le programme de la future médiathèque. Hein. Alors, pour répondre à la question de Renaud, moi je suis allé chercher en fait, et j'arrête pas en fait depuis que je suis recruté, ça fait 7 mois que je suis en poste, la définition du mot usage. Je suis reparti de là, tout simplement. J'ai trouvé que l'usage, c'était l'action, le fait de se servir ponctuellement de quelque chose. Donc j'ai cogité là-dessus. Donc parler des usages ou traiter des usages, c'est évoquer la perception du lieu ou de l'espace dans lequel ces usages vont se dérouler, vont se produire, avec les usagers qui sont déjà présents, et puis surtout avec des usagers qu'on a envie de faire venir. Vous le savez tous et toutes, le débat ou les débats qui agitent le monde des médiathèques tout de suite. Donc la médiathèque doit cesser d'être perçue, d'être appréhendée comme un lieu de stockage de livres, dans lequel on vient emprunter des livres. On a envie que ces médiathèques deviennent ou redeviennent, je ne sais pas, des lieux de vie. Hein, c'est des choses que l'on entend beaucoup tout de suite. Depuis que je suis en poste, j'ai à répondre aussi à une question qui est très, très en lien avec ce que je viens de vous dire sur cette perception qu'on a des médiathèques. Beaucoup de personnes sur la commune me demandent pourquoi faire une médiathèque, si belle et si agréable soit-elle, si je peux accéder à tous les livres, à toute l'information dont j'ai besoin, de chez moi, de mon ordinateur, car tout est disponible sur Internet. Voilà, c'est une question que j'ai très, très régulièrement. Donc la question des usages abordés au cours de la résidence, pour moi, elle a été abordée par la dimension du lieu et de l'immersion dans ce lieu. Damien l'a souligné tout à l'heure en ouverture. C'est vraiment au cœur de la ville de Lezoux qu'a été le point névralgique de la résidence. Tables, chaises ont été sorties sur le trottoir. Les prototypes dont on a déjà parlé ont aussi été réalisés sur le trottoir, avec la participation active de la population. Et la discussion a aussi eu lieu sur la place publique. La médiathèque a été symboliquement installée au plus près des habitants, au plus près de ses habitudes, de son quotidien, de ses modes de circulation et de déplacement. Alors, bien évidemment, on a parlé de médiathèque, on a parlé de livres, on a parlé d'expositions, on a parlé de rencontres littéraires, on a tous dit qu'on aimait lire. On a aussi souvent et surtout dit qu'on aimait avant tout l'odeur du papier. Ça, on l'a dit tout le temps et souvent. Moi, ce que je retiens aussi de ces usages, de la manière dont ils ont été traités, c'est qu'on a construit un dictionnaire de mots communs. J'en ai relevé quelques-uns, vous les trouverez dans le livret. Relais, plaisir, liberté, durable, convivialité, ouverture, adolescent, culture, production de contenu culturel, savoir-faire, empathie, par exemple. Il y en a d'autres. Hein. Pas livre, pas lecture, c'était intéressant. La question de la résidence et la question des usages a réellement donné la parole à la population, aux citoyens, à l'utilisateur, aux passants. Elle a sollicité le point de vue sensitif, immédiat. Elle a utilisé des jeux de mots pour qualifier, décrire et illustrer. Du coup, j'ai vraiment le sentiment que la résidence a permis d'aborder les pratiques et les usages de la population. Je pense aussi que la question a été traitée peut-être de façon renouvelée, car elle a parlé sans a priori des pratiques liées aux nouveaux modes d'accès à la connaissance et au monde de l'informatisation. L'approche aussi n'a pas été une approche bibliothéco-centrée. Elle n'a pas été non plus une approche sur les changements technologiques qui impactent notre métier. Mais vraiment, elle a porté sur les attitudes d'ouverture à l'usager. J'ai envie de dire qu'il ne s'agissait pas de trouver des réponses à la façon dont les usages, peut-être usages nouveaux, allaient pouvoir s'adapter à l'univers bibliothéconomique, mais bien à l'inverse, de travailler sur des idées, sur des usages qui allaient peut-être trouver une résonance dans le futur équipement. Je pense aussi que les usages ont été traités du point de vue de la méthode. On n'a pas évoqué l'évolution nécessaire de la médiathèque et de la fonction de médiathécaire, mais on a plutôt parlé d'appétence ou d'empathie, qui devaient être en fait des choses mises en mouvement pour exercer cette fonction-là. Pourquoi ? Parce qu'on a parlé de diversité des usages, de spécificité des publics, de niveau de connaissance de ces publics, de centre d'intérêt de ces publics. Du coup, on a essayé d'être au plus proche du dictionnaire que les gens ont établi en début de résidence. C'est terminé, merci. C'est difficile.
Je te donne une minute.
Je pense juste, pour finir sur ce point-là, que la volonté d'associer et de donner la parole donc, a été au-delà de ce que l'on fait habituellement et puis de cette nécessaire bien-pensance. En fait, on se dit il faut toujours que l'on donne la parole au public. Là, je pense qu'on l'a réellement fait. Il y a eu une prise en compte de l'avis et des attentes de la population. Et du coup, on a essayé de les responsabiliser tout de suite, au sens premier du mot responsabiliser, en les associant le plus tôt possible à la construction du projet, en les impliquant dans sa réalisation et en ouvrant les portes pour l'avenir. Voilà.
Je dois rebondir sur ce qu'a dit Jean-Christophe ou... et en fait, je vais rebondir. Moi, il y a... La première chose, c'est le terme d'usage. J'aime pas ce mot, je m'excuse, mais usage, usager, pour moi, c'est un mot qui sonne un peu comme... vous êtes usager, donc vous n'êtes plus... vous êtes hors d'usage, presque. Donc, ce qui a été intéressant, moi, de mon point de vue, chargée de mission, livret lecture, et puis politique territoriale, c'est qu'on change le vocabulaire. C'est qu'on sorte de l'entre-soi et qu'on travaille ensemble, à la fois avec des instances... des instances de financement, d'équipement, des instances de création d'équipement dans leur contenu. Alors, on revient sur le contenu. Parlons plus d'offres diversifiées. Je n'ai rien écrit, contrairement à Jean-Christophe, donc ça va être un peu confus, excusez-moi. Mais par contre, il me permet de rebondir sur ce qu'il a dit. Et effectivement, moi, ce que je retiens de cette résidence de territoire, alors effectivement, il y a cette notion de territoire aussi qui est très importante parce que chaque territoire est différent, chaque territoire a une histoire. Et il se trouve que, par exemple, sur le Zou, on est sur une population qui augmente d'année en année, alors que globalement, sur l'Auvergne, on est plutôt sur une population qui vieillit et qui diminue d'année en année. Donc là, on était aussi sur... une question de développement de politique territoriale qui a été voulue au départ par la communauté de communes et en la personne de sa présidente et qui a souhaité effectivement rendre encore plus attractif son territoire par la création d'une médiathèque en y associant dans des méthodes participatives qui sont à la mode tout de suite un ensemble de partenaires et à être aussi sur la collaboration. Moi, ce que je retiens aussi de cette idée de la bibliothèque, en fait, qui a changé, c'est que on a fait, par exemple, on a participé à un atelier jeu de rôle, et ça, c'était bigrement intéressant parce qu'en fait, chacun était obligé de se penser autre qu'il n'était dans la vie, dans sa vie personnelle ou dans sa vie professionnelle. Et lorsqu'on se retrouve être, je crois que moi j'étais un monsieur de 80 ans qui yoyotait un peu, bon ça c'est encore ça. Mais c'était intéressant de voir en quoi ce monsieur, quelles questions il pouvait se poser par rapport à une bibliothèque, qu'est-ce qu'il avait envie d'aller chercher dans cette bibliothèque. En tant que monsieur Simon de 80 ans, j'ai eu envie effectivement d'aller dans cette bibliothèque et j'ai fait des propositions. Donc ça, c'était aussi une démarche que j'ai trouvée intéressante parce qu'on sort de soi, on se décentre, on n'est plus dans les problématiques strictement professionnelles, mais on se met à la place d'eux. Donc ça, c'est assez courant comme pratique, mais pas forcément dans le milieu professionnel. Autre chose, c'est que dans l'intitulé de la question de Renaud, il y a aussi la question du public. Et le public, c'est quoi ? Enfin, je veux dire, c'est un public, c'est quelqu'un qui... C'est quoi ? Moi, je ne suis pas un public. Toi non plus, tu n'es pas un public. Enfin, c'est bizarre, ce mot-là. Ça résonne un peu bizarrement lorsqu'on n'est pas au cœur, dans la bibliothèque. Donc, plutôt que de parler de public, effectivement, là, je trouve que la résidence a apporté des éléments, c'est qu'elle a parlé, en fait, d'habitants. De quelqu'un qui est dans une cité, quelqu'un qui vit à un endroit, qui, de cet endroit, il essaie d'en avoir les commodités, et il en vit aussi les difficultés. Et du coup, on touche bien là la question du citoyen. Et étant dans cette question du citoyen, on est sur cette question du collectif, du collaboratif et de la co-construction et du fait qu'on n'est pas dans des relations hiérarchiques ou des relations où, en fait, il y a celui qui sait et celui qui ne sait pas ou qui, à qui on va apprendre et tout ça. Moi, j'avais un peu... Voilà, c'était un peu... Alors, les nouveaux usages là-dedans, en fait, eh bien, tout est possible, du coup, parce que si on est... tout est possible en fonction des moyens qui sont attribués, bien sûr, à la bibliothèque. Et en fonction de la façon dont le personnel de la bibliothèque aussi va s'emparer de cet outil-là, quoi. Donc, il me met un mot, là, ça me fait bizarre. Donc, je passe la parole à Damien. Voilà.
Du coup, je n'ai plus rien à dire.
Je précise juste qu'on a découpé comme ça pour que vous puissiez aussi rebondir à la suite de cette question que j'ai posée et que j'ai ouverte aux trois. Et donc, Damien va donner son point de vue sur la question comment cette résidence a permis de prendre en compte les usages. Qu'est-ce que ça veut dire travailler sur les usages en amont d'une bibliothèque? Et vous aurez, si vous avez des questions suite à ce qui a été dit, vous aurez la parole ensuite, là, bien entendu.
Moi, je vais rapidement faire une petite focale sur un moment de la résidence où on a parlé des contenus et on a eu un espèce de déclic. En fait, on a parlé en fonction de la typologie des contenus, on a différentes formes de contenus. Et en fait, le numérique aujourd'hui, il élargit le spectre de la typologie des contenus. Et en fait, on avait mis au point ce curseur-là que vous avez à l'écran. Et en fait, le déclic qu'on a eu, c'est que selon le type de contenu, on avait possibilité de proposer différents systèmes de prêt. C'est-à-dire qu'on ne va pas prêter un contenu numérique comme on prête un contenu physique, ça c'est évident. Mais on ne va pas non plus prêter un contenu connu comme on va prêter un contenu méconnu. Parce que le numérique, aujourd'hui, permet à des amateurs d'avoir un potentiel de diffusion énorme. Donc on ne va pas le prêter de la même façon, et puis surtout on ne va pas faire le même travail de mise en valeur, d'animation autour d'un contenu méconnu. On avait les contenus récents et anciens qui rejoignent la question des contenus des contenus libres de droit et des contenus payants, qui pour les médiathèques sont quand même un sacré casse-tête et le numérique n'arrange rien en termes de droit. Donc voilà, c'était un peu ça le... C'était plutôt la forme des contenus et les logiques de prêt différentes qui peuvent en découler. En fait, dans le plan des usages, là, alors on vous a distribué le plan, il n'y en a pas pour tout le monde, hein, je m'excuse, mais je pensais que ça serait plus intimiste. Mais du coup, vous avez dans le livret, vous avez la légende détaillée du plan qui raconte un peu les différentes idées. Et donc, on a un peu exploré différents systèmes de prêt pour alléger la partie un peu gestion de stock qui représente une grosse partie du temps de travail d'une médiathèque, quoi. Et l'idée, c'était d'alléger ça pour penser et proposer différents systèmes de prêt. Et voilà, et sinon, sur les usages, tout a été dit. Le principe du design, c'est d'adopter le point de vue usager, mais pas d'une façon scientifique, statistique, comme peut le faire le marketing. C'est de dire, bon, on est usager, on se met dans la peau de ce personnage, qu'est-ce qu'on ressent, de quoi on a besoin. Et d'essayer d'être un peu nuancé, pas d'arriver avec nos gros sabots, de dire, bon, les vieux, ils pensent comme ça, les jeunes, ils pensent comme ça, etc. Et en fait, en jouant différents usagers, on propose des services un peu génériques qui s'adressent à tout le monde. Je crois que c'est un peu ça, c'est trouver des services qui sont communs à différents profils d'usagers. Il faut faire attention à la sectorisation. Donc, les adolescents, on va leur proposer les mangas, les vieux, on va leur proposer des livres de bricolage, et puis voilà, quoi. Les vieux peuvent lire des mangas, même si... dans quelques années, en tout cas.
Alors, donc, si vous avez... Je précise, on va rentrer ensuite un peu dans le plan des usages, là, que j'avais affiché tout à l'heure, et parler un petit peu de quelques services qu'on va mettre en exergue, enfin, en tout cas, ceux qu'ils ont bien voulu mettre en avant. Mais sur cette question des usages et des réponses qui ont été apportées par Françoise, Jean-Christophe ou Damien, leur point de vue, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Donc, je précise juste que comme tout est enregistré, pour que les personnes qui ne participent pas puissent les réécouter, il y a un micro qui va circuler. Donc, sur cette, Est-ce que sur cette...
S'il fonctionne.
Oui, l'air de fonctionner.
Vous m'entendez ?
Voilà, n'hésitez pas. On gardera aussi du temps pour les questions à la fin, mais si là, il y a tout de suite des questions qui viennent sur cette problématique et sur cette première introduction, n'hésitez pas.
Je voulais juste savoir si sur les groupes de travail, il y avait des bibliothécaires qui ont participé dans la réflexion et qui ont joué le jeu de...
Alors moi, il y avait des bibliothécaires, je vais parler du point de vue médiathèque départementale, là. On était impliqués, nous, donc, médiathèque départementale, des bibliothécaires. Ce qui était, comme je le disais tout à l'heure, ce qui était intéressant, c'est que nous, on n'est ensuite pas au quotidien en contact avec le public. Employer ce mot-là, même si Françoise le récusait quelque peu, et ce qui pose plein de questions. Donc on était 5 ou 6 personnes de l'équipe assez régulièrement impliquées. Mais je pense qu'il faut parler aussi de la place des, ce qu'on appelle dans le milieu rural, les bénévoles. Et là aussi, on a beaucoup interrogé cette question, les bénévoles qui sont autour de la communauté de communes sur le Zoo.
Alors juste là, en termes de précision, il y a la communauté de communes, 14 communes, donc le Zoo, point central. Et la médiathèque à vocation intercommunale donc rayonnera sur 13 communes, 13 lieux. Et dans le cadre de la résidence, c'est 39 bénévoles. Tous n'ont pas participé activement aux ateliers, mais tant aux réunions du cabinet de programmiste qu'aux réunions de la 27e région, ils ont été associés régulièrement aux échanges et aux débats, oui.
Est-ce que les 13 lieux correspondent à ce qui est nommé point lecture communal ?
Oui, en fait, ce qu'on proposait à la fin, c'était de garder les points lecture qui étaient répartis sur tout le territoire, c'est-à-dire de ne pas les aspirer dans une grosse médiathèque intercommunale, mais de les outiller en fait avec des... Bon, je rentre dans le détail rapidement, mais en fait, il y avait des idées de services qui étaient proposées dans la médiathèque intercommunale qui pouvaient aussi être proposées dans les points lecture, dont les contenus numériques réimprimés sur place et reliés sur place. En fait. C'était un nouveau système de prêt où on disait, finalement, on peut rematérialiser des livres numériques et les gens peuvent repartir avec des versions papier des livres numériques. Ça, on le proposait dans les points communaux, puisqu'on proposait qu'il y ait un site internet de la médiathèque où les usagers... peuvent télécharger en fait les contenus qui sont proposés, donc les contenus numériques. Et ce site internet, il était commun à plusieurs médiathèques, mais aussi à la médiathèque départementale et aussi à ses points lecture. Puisqu'aujourd'hui, je crois qu'il y a une seule médiathèque qui permet de télécharger. C'est ça, Renaud, hein, il y a très peu de sites de médiathèques où on peut télécharger les contenus de la médiathèque. Alors pour des raisons de droit et autres, mais en tout cas, voilà. Je précise que le plan, c'est une vision idéale, c'est une forme d'utopie sociale, et ça sert en fait à, ça joue un peu le rôle de boîte à idées. Tout ne va pas être appliqué en l'état. L'idée, c'est de bousculer, de bouger un peu les lignes en représentant des partis pris forts. Donc c'est même pas un plan qui a des, il y a pas de proportion architecturale juste, etc. C'est un plan d'usage.
Alors justement. Il pourra y avoir bien sûr d'autres questions après. Sur ce plan d'usage, peut-être je te laisse la parole pour continuer, Damien, de bien préciser, effectivement, ce n'est pas un plan d'architecte, on est bien d'accord, c'est un plan des usages. Alors qu'est-ce qu'on appelle un plan des usages ? Comment cette question aussi un peu qui surprend souvent de la pondération et de la place relativement restreinte de ce qui a été appelé... Alors on a laissé complètement après les designers... libre ensuite dans cette présentation, fond dit classique. Hein. Je sais que ça, des fois ça heurte aussi. Qu'est-ce que vous appelez fond classique ? Qu'est-ce que c'est que cette place réduite voilà, pour des collections ? Donc déjà, ce n'est pas un plan d'architecte, bien le préciser, c'est un plan des usages. Et une question, alors que j'adresse aux trois, si, peut-être Damien pour commencer, si tu devais mettre en exergue un service qui t'a surpris, que tu ne pensais pas... découvrir à l'occasion de cette exploration, de cette co-conception avec les bibliothécaires et les habitants, quel service tu retiendrais ou parmi ce plan des usages, et si tu peux en dire quelques mots.
Pour moi, le service qui a modifié ma perception d'une médiathèque, c'est l'atelier vidéo-son. Il y a une cabine de téléchargement aussi qui était proposé dans l'espace public, qu'on a vraiment expérimenté et fabriqué pendant la résidence, et qui était centré en fait sur les contenus libres de droit. Donc des contenus anciens ou des contenus récents avec des musiciens, des réalisateurs, des auteurs, soit locaux, soit méconnus. Et donc avec l'idée qu'il n'y a pas de contraintes dans la diffusion, on peut télécharger, on peut dupliquer, etc. Et tout ce volet de la médiathèque qui porte sur les contenus, on va dire, amateurs, entre guillemets, ou professionnels méconnus. Et l'idée que la médiathèque, sur les territoires, elle peut jouer ce rôle de sélectionneur de contenus méconnus ou amateurs et leur offrir une diffusion. C'est quelque chose qui m'a beaucoup préoccupé pendant la résidence, et je trouve que ça change vraiment la vision du rôle d'une médiathèque, l'idée qu'il y a un travail de mise en avant de contenu. Sur les contenus libres de droit, on était allé dans le collège de Lezoux, on avait demandé, il y avait une vingtaine de jeunes qui étaient là, on avait fait un petit atelier. 19 téléchargés illégalement sur 20, et sachant que la 20e, les parents avaient fait le choix de ne pas avoir Internet à la maison. Les 19 étaient tout à fait contents qu'il y ait une médiathèque pour aller emprunter des DVD quand même, pour eux c'était pas incompatible. Mais l'idée, voilà, donc le truc, c'est que les contenus récents, les livres connus, les films connus, tout ce qui est hyper médiatisé, en fait, ça, aujourd'hui, c'est accessible en un quart d'heure sur plein de sites, et ça sera accessible de plus en plus rapidement. Par contre, ce qui est noyé dans la masse Internet, c'est tous ces contenus, ces contenus libres de droit. Et on s'était beaucoup appuyé sur les travaux d'un médiathécaire de passé, Antoine Viry, qui a monté un site qui s'appelle Zic Libre en Bib. Et c'est un travail, en fait, entre plusieurs médiathécaires. Ils sont une quinzaine dans toute la France. Et en fait, ils alimentent un site avec des musiques récentes, actuelles, qui sont pas connues. Ça ne veut pas dire que ces artistes vont toujours laisser leur musique libre de droit. Ils attendent, quand ils seront connus, ils diront, bon, maintenant, il faut payer. Mais en tout cas, il y a tout un tas de productions qui peuvent être diffusées gratuitement, facilement, etc. Et ça, ouais, pour moi, ça a changé l'idée qu'une médiathèque fasse ce travail de sélection pour les habitants et pour le territoire et de mise en avant de contenu. Moi, je trouvais ça intéressant. Alors, il y a les contenus méconnus qui sont partout. Par exemple, la médiathèque de Lezoux peut dire, regardez cet artiste islandais qui fait des films merveilleux. Ça, c'est possible aujourd'hui. Et il y avait aussi l'idée qu'en local, elle pouvait se constituer un réseau de musiciens, de réalisateurs, d'auteurs, et leur proposer des espèces de partenariats pour qu'ils alimentent une base de données, et voilà, quoi. Qu'ils alimentent le fonds documentaire numérique de la médiathèque.
Françoise, peut-être si dans les services, on prendra les questions, bien entendu. Oui, oui. Si ça vous ennuie, je laisse répondre Françoise et Jean-Christophe, et puis on prend les questions sur cette là-dessus.
Moi, ce qui m'a le plus surpris, en fait, c'est l'atelier juste en dessous, celui Régisson. C'est l'atelier relure, atelier de relure. C'est un atelier. Je me suis posé la question de savoir s'il s'agissait d'un atelier photocopie géante s'il s'agissait effectivement de rematérialisation. Je me suis dit pourquoi. Enfin voilà, qu'est-ce que ça va faire de plus que la photocopie. Et puis il y a aussi reliure d'art. Ça m'a paru très. C'est un atelier qui. Et puis le terme d'atelier, ça m'a paru très étrange comme volonté d'avoir ça à l'intérieur de la médiathèque, parce que ça me semble que c'est à la fois quelque chose qui existe, et puis qu'il y en a d'autres qui font ça beaucoup mieux que la médiathèque, faire des livres. Faire des livres, ça relève d'un autre métier qui est l'édition. Et je suis très attachée à l'interprofession et à la chaîne du livre, donc je me disais que, si c'est fait, pourquoi rematérialiser? On est dans du photocopiage, on est dans... Voilà, c'était un peu l'aspect négatif de ça, plutôt que de faire appel effectivement à des ateliers de reliure d'art avec des artistes, peut-être, enfin, c'est peut-être qu'il y avait ça derrière. Et ça, c'est dans ce cas, effectivement, et puis... En région Auvergne, il se trouve qu'on a une médiathèque où il y a des magnifiques livres d'artistes et de reliures d'artistes à la médiathèque de Rion Communauté. Donc du coup, ça c'était bien si c'était mettre en valeur ces fonds-là, ou alors si c'était effectivement être dans une démarche avec des éditeurs pour travailler, montrer quel était le travail des éditeurs. Voilà, c'est cet atelier-là qui m'a un peu surpris, mais qui du coup peut-être effectivement, sans cette notion de travailler avec les autres acteurs de la chaîne du livre ou les autres acteurs du numérique à d'autres niveaux, me paraissait intéressante à creuser et à retravailler. Alors il se trouve que si cet atelier a émergé, c'est parce qu'effectivement il y a un éditeur sur la région et que c'est cet éditeur qui l'a proposé. Voilà, donc la boucle est bouclée, mais voilà, c'était cet aspect-là.
Alors, le point moi, qui m'a vraiment interpellé, sur lequel je travaille depuis, c'est sur la question des fonds documentaires multiples. Damien en a parlé, hein, donc fonds matérialisés, dématérialisés, gratuits, méconnus, payants, etc. Et puis ensuite, cette dimension-là, et ensuite la dimension de leur traduction dans l'espace du plan d'usage. Donc on a parlé d'étagères des habitants, on a parlé d'étagères en libre-service 24-24 avec le modèle de cross-booking, par exemple. On a parlé des malles itinérantes, on a parlé de l'étagère thématique des savoir-faire. On a parlé, bien évidemment, du fonds numérique téléchargeable, de la cabine de téléchargement. On a parlé de toutes ces manières-là d'avoir accès à des fonds et à des connaissances. Et on a parlé, du coup, de la manière dont la population du territoire allait pouvoir enrichir les collections de la médiathèque. Donc, du coup, durant le temps de la résidence et maintenant, donc, se posent des questions pour moi et, je pense, plus largement hein, pour la profession. Donc, la question de la politique documentaire et de sa gestion. La question de repenser, de réinventer, de revisiter des modes de prêt. La question de jusqu'où peut aller ou doit aller le rôle de la communauté pour l'enrichissement de la connaissance collective. Et puis, pour le coup, j'y reviens sur le métier aussi, jusqu'où le bibliothécaire est passeur, facilitateur de connaissances, de passage de connaissances. Voilà, donc c'est un point, moi, vraiment qui m'interpelle et sur lequel je travaille. Oui.
Alors, je crois qu'il y avait des questions sur l'une ou l'autre des réactions.
Oui, j'ai une question. Tout à l'heure, notre collègue nous disait que parmi les premiers échos auprès de la population, il y avait cette histoire de l'odeur du livre. Ce qui me fait poser la question de savoir quelles sont les utopies qui sont remontées de la population ou des habitants. Parce qu'on sait tous que le français moyen, si tant est qu'il existe, a une représentation de l'image de la bibliothèque. Il n'y a pas de raison objective que dans votre territoire, elle soit très différente. Donc quelles sont ces utopies qui sont remontées, ces idées qui n'ont peut-être pas été prises en compte, parce que techniquement, ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau qui est remonté du territoire? Parce que ce que je vois là, c'est effectivement des choses que l'on connaît un petit peu. J'adore l'histoire de la cuisine, là c'est un truc super, mais est-ce que par exemple cette idée de l'atelier cuisine et des fonds cuisine, c'est quelque chose qui est remonté de la population ou est-ce que c'est quelque chose qui a été émis au sein du groupe professionnel?
Moi je peux vous donner quelques éléments de réponse, hein. C'est-à-dire quand je vous parlais tout à l'heure de l'élaboration d'un dictionnaire commun, je crois que ça a été ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à côté du travail du programmiste, à côté du travail des professionnels qui encadrent tout naturellement le projet, hein, un projet scientifique, sa méthode, ses exigences, etc. Il ne s'agit pas de faire et de construire n'importe quoi, hein, on est tous d'accord là-dessus. La résidence, alors, je veux bien qu'on se comprenne là-dessus, hein, il ne s'agit pas de dire, voilà, on a donné la parole pour donner la parole et maintenant on est tranquille. Voilà, je veux que ce soit très clair là-dessus. Hein. Il y a eu cette volonté-là d'associer la population à la réflexion de manière intense. L'élaboration d'un dictionnaire de mots, d'expressions, d'usages, de services a réellement... Voilà. Alors la cuisine en a fait partie parce que... Alors un exemple tout bête, hein, il a été, on a décidé de constituer une bibliothèque thématique autour du thème de la cuisine. On devait être le mardi soir. Le jeudi soir, il y avait 150 livres dans le lieu dans lequel la résidence avait implanté son lieu de travail. Voilà, 150 livres qui venaient de la population sur le thème de la cuisine. Voilà. Donc on est sur des choses toutes simples comme celle-ci, qui certainement sont le fruit de réflexions de professionnels autour de la profession, mais qui sont aussi, à un moment donné, la possibilité de donner la parole à la population sur des choses que, jusqu'à ce jour, on n'a pas imaginées dans une médiathèque. Je crois que c'est tout simplement ça. Et la question de la cuisine en fait partie. Voilà.
Sur la question des livres de cuisine, en fait, il y a tout un tas de pistes autour des fonds participatifs. L'idée que la médiathèque et les médiathécaires, en l'occurrence, peuvent jouer le rôle d'animateur et solliciter les habitants pour qu'ils mettent leurs livres en commun, qu'ils mettent leurs livres au pot commun. Et c'est vrai que les livres de cuisine, c'était en trois jours, dix dames. Bon, c'était des dames, hein, on reste dans les vieux schémas, mais elles ont ramené 150 livres de cuisine et on a dit... C'est là que les idées autour des lectures pratiques, là, les étagères brouettes, les étagères placards, etc., l'idée c'est d'essayer d'attirer un public qui ne va pas forcément avoir le nez dans les bouquins tout le temps, en mettant et en valorisant un rapport concret et pratique à la lecture. Quoi. Donc l'idée de la cuisine était apparue là. Après, très clairement, il y a des idées, c'est pas les habitants qui ont dessiné le plan des usages, il faut bien qu'on serve à quelque chose, sinon on serait vraiment payé pour faire parler, ce qui n'est pas super. Mais par exemple, je prends l'exemple de la malle médiathèque itinérante. Donc c'est une malle en fait qui passe de foyer en foyer, et en fait chaque habitant est invité à mettre les livres qu'il veut bien prêter. Donc en fait, je suis habitant, j'ai la malle 3 semaines, je mets mes livres et je passe à mon voisin qui la garde 3 semaines, qui met ses livres, ses CD, ses DVD, etc. Et l'idée c'est que le médiathécaire anime, il appelle, il dit est-ce que je peux venir chercher la malle, oui, tac tac tac. Et ça, c'était une idée qui était apparue donc, sur un autre projet de Elisa, de l'association de l'air qui faisait partie de l'équipe, qu'on a testé et adapté à Lezoux. La cabine de téléchargement numérique aussi, qu'on peut montrer peut-être, Renaud.
J'y vais.
Ça semblait très biscornu. C'était un peu un ovni dans l'espace public de Lezoux. Ça reste un peu un ovni. Hein, il faut être clair. Bon, ça, c'est une idée de designer. Voilà, on fait des trucs bizarres. Par contre, ces idées, donc c'est la cabine dont je parlais tout à l'heure, on a des films, des livres et de la musique libres de droit qui sont mis à disposition dans l'espace public avec une thématique. Là, on avait choisi les utopies sociales comme premier thème, avec un thème qui serait renouvelé tous les 2 mois, et donc on change les contenus. L'idée, c'est de faire une sélection de qualité de contenu. Et ça, pareil, c'est pas les habitants qui sont venus et qui ont dit on veut une cabine de téléchargement dans l'espace public. Mais ils expriment des besoins, ils nous parlent de leur pratique numérique. Et nous, après, on en déduit des choses et on est force de proposition aussi. Donc il y a des idées qui sont venues de la population, de l'éditeur de Fudo Édition, autour de la... On prend des fichiers numériques et on fait des ateliers de fabrication de beaux livres, par exemple. Ça, c'était une idée qui était déjà. Et puis il y a des idées qu'on a amenées, nous, notre rôle, c'est d'être un peu agent créatif ou agitateur créatif, si vous voulez. Donc,
Pour compléter, moi, je dirais que les idées, quand même, il y en a eu pas mal qui sont venues des habitants, en particulier celles qui relèvent plus de la bibliothèque comme lieu de lien social, de partage, de convivialité, d'échange, etc. Et je me souviens, entre autres, d'un habitant, nouvel habitant sur le territoire, qui disait moi, je suis très heureux d'arriver sur cette ville parce que s'il y a une médiathèque, je vais pouvoir rencontrer des gens. Je vais pouvoir accéder plus facilement au numérique parce que je ne suis pas du tout de la région, donc je suis plutôt sur Internet et chez moi, ça ne marche pas très bien. Donc, je suis assez impatient qu'il y ait une médiathèque qui s'ouvre. Et aussi sur j'ai des choses à régler du point de vue social et tout ça, et la médiathèque, je le vois aussi comme un lieu qui va m'apporter véritablement des services individuels pour mes recherches propres, etc. Et puis des recherches plus collectives, et puis les services publics aussi, parce que sur ces territoires, il faut savoir qu'il n'y a pratiquement plus de services publics. Et j'en profite pour dire que si la région aussi s'est investie dans ce projet, c'est parce qu'elle voyait effectivement, c'est les services numériques du Conseil régional d'Auvergne qui s'est investi dans ce projet, parce qu'ils ont un devoir auprès des EPN, dont vous avez tous entendu parler, et que du coup, ils voyaient aussi cette réflexion autour de la médiathèque comme une nouvelle réflexion par rapport aux espaces publics numériques. Donc et du coup la population répondait à ça d'une certaine façon en disant nous effectivement on veut pouvoir avoir accès sur notre territoire rural aux services publics qui ne sont plus présents à 10 km à la ronde. Quoi. Voilà.
Je crois qu'il y avait une autre question.
Vous avez peut-être déjà répondu en partie. Vous avez déjà répondu en partie à la question, puisque on a dit que c'était un projet qui était fait à un moment donné avec une population donnée, mais que les bibliothécaires étaient aussi force de proposition, étaient amenés à le faire évoluer. Mais est-ce qu'il y a une réelle volonté en fait, de pérenniser cette démarche de co-construction et comment on le met en place? Est-ce que le groupe de travail est amené à intervenir, à consulter régulièrement?
Oui, ça continue. On essaie de continuer. Je crois que la question de la résidence, elle, pour moi, elle est surtout dans la manière dont elle peut traduire la philosophie de construction d'un projet. Donc certes, là, ça a été l'occasion, parce qu'on a eu les 3 semaines de résidence, qui ont été étalées sur 6 mois. Mais ensuite, c'est la dimension qu'on va donner au projet dans sa durée, réellement dans sa durée. C'est-à-dire que les groupes de travail ont été constitués, ils continuent d'être réunis. Une politique d'animation se mettra en place à partir de septembre autour de ce qu'on a appelé les chantiers de la médiathèque, qui seront des chantiers participatifs, à la fois auprès de la population, à la fois auprès des bibliothécaires, à la fois aussi auprès des ouvriers et de l'architecte qui construiront le bâtiment. Donc la démarche participative se poursuit, continue. Le Zoo est une ville de potiers. Donc il y aura tout un travail autour de la poterie dans le cadre de la construction du bâtiment. Donc cette philosophie-là, oui, continue. Voilà. Après, jusqu'à quand, je ne sais pas. Je pense que c'est pour le coup réellement l'enjeu du bâtiment et de l'équipement. Voilà. Moi, j'ai simplement envie de le dire comme ça. Et j'anticipe du coup sur la troisième question que Renaud nous posera tout à l'heure. C'est par rapport
vas-y,
à ça.
Vas-y, pose-la,
désolé, mais c'est parce que ce que
vous. Vaut mieux faire les questions et les réponses en général. En termes de démocratie participative, c'est toujours plus efficace.
La question du temps, qui est réellement importante, qu'il nous faut vraiment intégrer dans le projet. On est globalement sur des projets qui doivent être débutés et construits et finis en 2 ans, 2 ans et demi. On sent bien là qu'en associant la population, en faisant de la population un acteur essentiel du bâtiment, de la construction, du projet culturel, le projet ne sera jamais fini. Jamais. Il sera en permanente construction. C'est en ce sens-là qu'il faut arriver à le penser, tout simplement. La question de la participation, elle est là, elle n'est pas ailleurs. Quoi. On va effectivement donner un cadre scientifique, culturel à l'équipement, mais il ne sera pas définitif, il ne sera pas figé. Donc c'est un discours qu'il faut faire admettre, valider par nos élus. Il faut en débattre avec nos financeurs et il faut sans cesse relancer la population. Mais il en va aussi de cette question d'adaptabilité, de fluidité, de mobilité du bâtiment. On sait que ça coûte cher, très cher. Et je pense qu'il faut qu'on se donne le temps de réellement le penser et de le penser avec la population dans la durée. Pardon, j'ai un peu.
Il y avait une autre question, je crois.
Oui, je voulais revenir en fait sur les tout débuts du projet. Comment avez-vous déclenché la participation des habitants et combien d'habitants ont participé? Parce que bon, animer des ateliers, je pense qu'on peut pas le faire avec un nombre trop important de personnes. Et où était située la jauge en fait pour que ces ateliers soient à la fois riches et efficaces?
Il n'y a pas tellement de jauge, enfin, il n'y a pas une partie, si vous voulez, on n'a pas eu les 5000 habitants du coin qui sont venus, qui ont dit on veut participer à la réflexion sur la médiathèque. En tout, je dirais qu'il y a, je ne sais pas, en comptant les gens qu'on est allé voir, chercher chez eux pour les faire parler sur le rapport à la lecture, pour qu'ils testent, parce que la malle itinérante, elle a tourné pendant un mois et demi, je crois, entre 2 semaines, puisqu'on est une semaine. Je dirais qu'on a une vingtaine, je pense, de participants actifs. Quoi. Après, il y a les acteurs associatifs, les acteurs locaux qu'on est allés rencontrer aussi. C'est vrai que nous, on fait beaucoup. Enfin, quand on, dans les autres projets qu'on mène, on s'appuie souvent sur la participation des habitants, des acteurs locaux. Parce que pour penser les services publics, il y a une dimension citoyenne, il y a une nécessité du débat qui est importante. C'est vrai que nous, on aime bien avoir des groupes pas trop gros, effectivement, mais qui travaillent un peu dans la durée. Parce que ramener 500 personnes qui réfléchissent 2 heures, c'est pas. Voilà, on a 500 idées pas très poussées. Si, voilà, donc on préfère avoir 10 personnes avec qui on travaille dans la durée. Après, je ne sais pas, parce que du coup, Jean-Christophe
après, a continué. Là aussi, ça, c'était vraiment dépendant de la nature des ateliers, pour le coup. Il y a eu une soirée autour des jeux vidéo, par exemple. Donc là, on a touché 20-25 personnes le soir qui n'étaient pas venues participer à d'autres ateliers, et inversement. Voilà. Donc, ouais. Les réunions, enfin, le principe des résidences et de la 27e région, c'est le lundi soir, c'était, je ne sais plus comment il s'appelait, c'est une réunion générale, en fait, de présentation de la semaine. Oui, voilà, il y avait 40, 50, 60 personnes qui participaient à ces moments-là. Et après, c'était plus diffus dans la semaine, ça dépendait.
Ouais, ce qui était important aussi, c'était la place des élus dans cette résidence. C'est-à-dire que les élus, au départ, ils étaient relativement réticents, en se disant, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi une nouvelle... Enfin, il y en avait beaucoup sur ces petites communes de la communauté de communes qui n'étaient pas forcément très... voilà, puis en plus, on s'en connaît les dissensions entre les petites communes d'une communauté de communes et puis la grosse commune mère et tout ça. Donc, et du coup, moi, j'ai trouvé très intéressant l'évolution, enfin le parcours des élus par rapport à ça. Et je crois que ces résidences, parce qu'il y en avait quand même pas mal qui étaient là sur les ateliers, enfin, moi, chaque fois que j'ai participé, il y avait des élus qui étaient là, de ces communes, et pas forcément les élus de la culture, d'ailleurs, ça pouvait être d'autres élus, hein, pas forcément ceux concernés directement par le sujet. Et du coup, ça, c'est très intéressant, parce qu'en fait, on les voit évoluer par rapport à la notion, justement, d'un équipement culturel sur un territoire, de ce que ça peut représenter, justement, la culture sur un territoire, et là, la résidence, je trouve qu'il n'y a pas tellement d'autres endroits où c'est possible, ça, pour, en tous les cas pour des professionnels, d'être en relation, et pour les habitants, d'être en relation avec leurs élus de façon comme ça, horizontale, quoi, on va dire. Hein. Donc, c'était, moi, j'ai trouvé ça très intéressant dans ces ateliers. En plus, enfin, en dehors de la question du nombre et de la participation, c'est la qualité de la participation, en fait.
Il y a une question là-bas, si on a le micro.
Bonjour. Une question en suivant la suite, justement, de ce travail participatif. Est-ce que vous avez envisagé, notamment avec les élus, l'idée d'un budget participatif qui pourrait accompagner le projet ? Et est-ce qu'il y a une place particulière ? Alors, vous avez parlé des jeux vidéo, mais une dimension particulière du projet autour du jeune public ou du public adolescent.
Vous m'en demandez beaucoup. Hein. Ce que j'ai envie de vous dire là-dessus, j'ai envie de parler de gouvernance de l'équipement. C'est-à-dire qu'on change là aussi, qu'on essaie de faire changer et qu'on essaie de faire évoluer les modes de gestion de l'équipement. Que la population, qu'on trouve les outils, on y réfléchit, qu'on trouve les outils où la population ne soit pas simplement interrogée une fois par an par un questionnaire. Est-ce que la bibliothèque répond à vos attentes ? Bien sûr, on y vient. Donc ça répond globalement bien, mais le restant de la population, lui, on ne sait pas, on ne sait toujours pas. Donc essayons, l'objet est d'arriver à travailler sur la gouvernance du lieu, gouvernance avec les partenaires financiers, bien évidemment, avec les élus, bien évidemment, avec l'équipe de bibliothécaires, bien évidemment, mais aussi avec la population. Et par rapport aux questions que vous posez, l'attention particulière qui pourrait être donnée aux jeunes publics, aux ados, etc., etc., je pense qu'à un moment donné, au-delà de la politique culturelle, scientifique, sociale de l'équipement qui pourra être appliquée, qu'on prenne réellement en compte l'attente de la population, ses souhaits, dans la mesure de la faisabilité, bien sûr, et de la pertinence de la chose. On est bien d'accord là-dessus. Mais on est vraiment sur cette question de gouvernance de l'équipement. Voilà, je vous réponds mal, peut-être, mais je crois que ça fait partie, là aussi, de la manière dont le projet a envie d'avancer.
Bonjour, une question qui est une provocation à la réflexion. Quand des non-lecteurs se rassemblent, parce qu'il ne faut pas être se leurrer dans la population, est composé, quel que soit le lieu, d'une grande majorité de non-lecteurs ou de non-usagers, en tout cas, d'une bibliothèque, surtout quand il n'y en a pas. Mais quand des non-connaisseurs des bibliothèques se réunissent, qu'est-ce qu'ils construisent ? Une non-bibliothèque. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est bien sûr tous ces usages à prendre en compte, nouveaux. Ah, et si on faisait de la cuisine ? Et si on faisait de la reliure ? Et si, etc. Mais ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est comment ce qu'on appelle le fond classique, ou je dirais notre démarche professionnelle de diffusion du savoir par des supports, via des supports classiques peut-être, comment ce noyau de la bibliothèque et des usages traditionnels de la bibliothèque sont changés par cette réflexion. Est-ce qu'il n'y a pas le risque que finalement on superpose, on ajoute à des pratiques professionnelles classiques et qui seront en rien bouleversées, on y ajoute des tas d'autres usages, et donc comment notre collègue, il a dit qu'il l'avait fait, a modifié et même étendu, développé ce noyau classique, ces missions classiques qui, après tout, elles ne sont peut-être pas nouvelles, mais elles sont, je pense, légitimes.
Vous voulez que je vous réponde ? Oui.
Alors, c'est une, du coup, c'est une question qui s'adresse peut-être plus, en l'occurrence, aux bibliothécaires, mais néanmoins, voilà, si l'éclairage de Françoise ou de Damien est le bienvenu. Simplement pour répondre avant que Jean-Christophe enchaîne, ce qui est intéressant dans la question et dans le schéma des usages, c'est que si le projet de bibliothèque est en constante évolution, le schéma d'usage également et les termes qu'on a choisis pour représenter les usages à un moment donné, ils peuvent être aussi en évolution. Aujourd'hui, on considère ça comme il y a une partie qu'on appelle fond classique, mais c'est en 2013, avec les usages qu'on connaît et qu'on a travaillé. Peut-être qu'une partie des usages qui sont notés là d'une autre manière, un jour seront considérés comme eux-mêmes, entre guillemets, classiques. Alors, je crois qu'il faut quand même aussi avoir une lecture dynamique de ça. C'est-à-dire, c'est quelque part, c'est un outil d'observation, c'est peut-être des lunettes, quoi. C'est peut-être les lunettes actuelles, voire, on espère, un peu de demain, pour construire un projet qui, de toute façon, n'émergera que dans deux ans. Et essayer d'adopter les bonnes lunettes pour observer ça et et réfléchir, quoi. Donc voilà, c'est vraiment dynamique et évolutif, y compris le schéma des usages et les termes retenus, à mon avis. Je t'en prie.
Non, je sais pas. Non, peu de choses à ajouter là-dessus. Hein. Moi, les fonds thématiques participatifs, les étagères, etc., tout ça font partie du champ des possibles. Voilà. La question, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce qui a été évoqué durant les 3 semaines de résidence, nous pose aussi des questions. Moi, je n'ai pas les réponses à tout de suite. Je suis en train de, quand je vous disais tout à l'heure que ça remet en cause, ça remet en mouvement la question de la constitution d'une politique documentaire. Ça remet en cause la question de la dimension du prêt. Comment on va faire ? De quelle manière ? Est-ce qu'on gère de façon classique les fonds participatifs que les gens vont nous amener sur une... Je ne sais pas. Voilà. Je pense que, par contre, ce sont des éléments de réponse, peut-être pour satisfaire la population, sur des documents que la médiathèque ne pourra plus acquérir ou fera le choix de ne pas acquérir, peut-être. Je n'ai pas de réponse à ça encore. Mais quand j'interroge la question de la politique documentaire, je m'interroge dans ce sens-là. C'est-à-dire, est-ce que je sais que mon bassin de population est un bassin de population composé de beaucoup de lecteurs de romans policiers. Voilà un exemple très classique et très, très, très simple. Est-ce que la médiathèque intercommunale va développer une vraie politique d'acquisition en matière de romans policiers ? Non. Parce que j'ai 50 lecteurs sur la communauté de communes, qui achète tous les mois 10 polars. Voilà. Je sais que ces 50 lecteurs vont me les prêter. Je les mets dans ma médiathèque. Je n'en achète plus. C'est la population qui prête à la population. Ça marche ou ça ne marche pas ? Je ne sais pas. Je dis simplement que le cadre de la résidence a permis d'interroger la population, et on a pu s'interroger avec la population, sur la manière de faire circuler les collections autrement, sur la manière de constituer les collections autrement. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Ouais, moi, je rajouterais juste que le but de ce livret là et de ce plan des usages, c'est pas de dire ça c'est les idées du siècle, il faut que vous fassiez tout ça. L'idée, c'est de proposer pour débattre. Voilà, donc ça marche. En l'occurrence, il faut lire attentivement le livret, parce que vous verrez qu'il y a deux niveaux d'idées. Il y a les idées qui n'existent pas aujourd'hui dans les médiathèques et qu'on propose d'amener, le prêt de jeux vidéo avec les tournois, enfin ça n'existe pas dans beaucoup de médiathèques en tout cas, les ateliers, les lectures pratiques avec la mise en valorisation à travers des étagères thématiques. Et il y a des idées qui proposent de faire muter les fonds classiques. Pour moi, le fonds participatif, c'est pas les gens, ils lisent pas que des livres pourris et inintéressants. Sur Internet, notamment avec la cabine de téléchargement, on a fait une sélection de contenu avec l'aide de Renault de livres intéressants. C'est pas parce que c'est numérique que c'est pas intéressant, je veux dire. Donc, pour moi, voilà, il y a les idées nouvelles et puis il y a les idées qui proposent de faire muter les choses. Et je vais être un petit peu terre à terre, mais bon, c'est mon rôle de designer. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le gros du travail d'une médiathèque, c'est de la gestion de stock. C'est-à-dire on passe des commandes, on gère des classements informatiques, on surveille, on envoie des lettres de rappel. Et ce qu'on dit un peu, le point commun, c'est de dire qu'il faut alléger ce temps de travail-là et pour se dégager du temps pour faire de l'animation. Parce que pour que les gens prêtent leur polar à d'autres gens, il faut quelqu'un qui leur donne l'idée, qui parle avec eux, qui les entraîne un peu dans la dynamique, quoi. Et c'est un peu ça, je dirais, le truc. Mais pour moi, ce n'est pas une non-médiathèque si on propose d'attirer, enfin en tout cas de tenter d'attirer des gens qui ne viennent pas vers la lecture spontanément. Enfin, je pense que ça, c'est... il ne faut pas faire que ça, ça je suis d'accord, mais je crois que dans le plan des usages, vous verrez qu'il n'y a pas que ça.
Une autre question, puisque ça, je sens... Ça fait écho, ça fait débattre là entre vous, oui. Voisins, voisines. Donc si oui.
Non, c'est juste.
Je
ne
sais pas
remarque,
où est le micro, trouve, par contre. Oui, voilà. Pardon.
Je trouve que ça illustre assez bien ce qu'on a entendu ce matin dans la conférence, c'est-à-dire tout le processus et la remise en question de la citoyenneté, que les choses maintenant passaient en dehors du politique, etc., et qu'il fallait en conclusion peut-être que l'institution retrouve. Un autre rôle. Alors la question que je me pose pour en rajouter une couche, c'est que le fait d'institutionnaliser peut-être, enfin institutionnaliser, de les prendre en compte, de recueillir, mais que de les retransformer dans ce que sera la nouvelle institution, est-ce que ce sera possible d'abord, et est-ce que ce ne sera pas à nouveau figé quelque chose? Bon, après tout est dans tout. Et en même temps, je me faisais la réflexion que dans l'atelier, enfin aborder ce genre de questions en tant qu'ancienne participatrice au congrès de l'ABF, je trouvais qu'il y avait une vraie avancée, parce qu'il y a 10 ans, jamais on n'aurait parlé dans ces termes-là. Voilà.
Et vous verrez dans 10 ans. Ça va. Rendez-vous dans 10 ans, donc, comme disait. Je ne sais pas, c'est plus une... Tu veux réagir, Françoise? Vas-y.
Oui, parce que je suis pas vraiment du Sérail, enfin je suis pas bibliothécaire, je l'ai été mais je le suis plus depuis longtemps. Et il s'agit pas d'un nouveau bréviaire des bibliothécaires, hein, c'est pas le nouveau métier des bibliothécaires, je crois pas que ce soit ça. C'est effectivement la nouvelle bibliothèque. Donc c'est peut-être oui, mais c'est pas la même chose. C'est le métier de bibliothécaire aussi, voilà. Si effectivement, ça pose toute la question effectivement de la transmission, du rôle de celui qui sait à celui qui transmet son savoir ou qui transmet les savoirs des autres à une population qui maintenant, effectivement, peut ramener des choses à la bibliothèque, peut faire partager ses propres savoirs, et le numérique facilite encore plus ça. Et du coup, moi, je n'ai pas très bien saisi. Il n'y a rien qui est enlevé à la bibliothèque. Il y a des choses qui sont rajoutées, mais il n'y a rien qui n'est enlevé à la bibliothèque. Et le rôle, justement, du bibliothécaire, il est d'autant plus important, et il devient d'autant plus important. Mais pas uniquement comme bibliothécaire, mais comme citoyen à l'intérieur d'un territoire et qui agit en tant que citoyen sur ce territoire. Mais pas avec cette image, peut-être je m'exprime mal, mais pas avec cette image figée du bibliothécaire qui serait celui qui transmet des livres, quoi.
Moi, je compléterais juste du point de vue médiathèque départementale, là où ça m'a intéressé le fait de scénariser les usages et de mettre des choses dessus. J'ai justement trouvé que ça n'empêche, parce que c'est le mot qui a été, je crois, à un moment employé tout à l'heure, que ça n'empilait pas les activités, entre guillemets, ou les façons d'intervenir, mais au contraire, ça les liait. Je prends un exemple, on parle par rapport au fonds des savoir-faire et l'association des jardiniers que vous voyez en bas, là, qui est un exemple. On parle souvent des expériences de prêt de livres humains, de bibliothèques vivantes, donc voilà, dans les pays nordiques ou anglo-saxons, vous avez devez connaître, et plutôt pour lutter contre les stéréotypes dans ce cadre-là, mais dans ces cadres-là, mais donc voilà, on va prêter une personne pendant un moment qui va expliquer quelle est sa vie, son métier, etc., etc. Comment on intègre ça, cette idée dont certains veulent se saisir, dans un contexte local en France, avec aussi notre tradition qui est un petit peu différente en termes de mentalité, de modèle institutionnel. Et moi, je trouve que le côté fond des savoir-faire, c'est une réponse possible. C'est-à-dire que le bibliothécaire, la bibliothèque, c'est pas seulement le lieu où on met en lien des ressources dites fonds classiques et des habitants. C'est pas seulement le lieu où on met en lien des contenus vivants, spectacles vivants, conférences, etc., et des habitants. Ça se travaille souvent, beaucoup, enfin, toutes les bibliothèques le font. C'est aussi le lieu où on met en lien des habitants et d'autres habitants experts, entre guillemets, dans un domaine, ou en tout cas qui peuvent jouer un rôle aussi de transmetteurs, d'accompagnateurs dans un domaine. Et après tout, sur le jardinage, effectivement, on a le fond dit classique. On a, pourquoi pas, des activités dans la bibliothèque, comme ça se fait aussi dans plein de bibliothèques. Et puis, peut-être le fait de considérer que dans notre collection qu'on promeut, dans les liens qu'on fait, ça peut être vers des ressources extérieures, locales, des gens qui sont prêts à transmettre, à passer un moment. Et après tout, on en parlait avec certains fournisseurs, est-ce qu'on peut même, et c'est là où le travail du bibliothécaire, à mon avis, dans ses spécialisations, prend tout son sens, est-ce que ça veut dire qu'il faut avoir peut-être des alertes sur nos catalogues, quand un lecteur emprunte beaucoup de livres de jardinage, on est en mesure d'envoyer de manière automatisée, savez-vous que l'association des jardiniers de France a une antenne locale sur le Zoo et qu'ils organisent une journée porte ouverte le samedi prochain, etc. Alors ça peut être de manière anonymisée avec tous les modules, les algorithmes, statistiques, etc. qu'on peut avoir. Ça peut être en faisant le lien en soi-même en tant que bibliothécaire quand on est dans le lieu et qu'une personne vient nous demander des livres de jardinage. Mais après tout, on met en lien des collections, on met en lien des collections et des habitants et du spectacle vivant, on peut mettre aussi en lien de cette manière-là. Ça se fait dans tout le travail d'action culturelle des bibliothécaires avec les associations. Mais là, c'est essayer de le penser comme un cycle et dans l'ensemble du travail de sélection, de médiation, entre guillemets, voilà. Enfin, moi, c'est comme ça que certaines idées, que je les ai reçues en me disant, plutôt que de dire aux bibliothèques, regardez, il faut faire des bibliothèques de livres vivants, ça se fait à l'étranger, est-ce que c'est pas ça une adaptation d'exemples étrangers dans notre contexte français, entre guillemets, ou de bibliothèque, peut-être. Voilà, c'est une question que je me pose, mais c'est comme ça que je l'ai reçu, moi. Ça m'a permis de mettre en lien les différentes tâches, quoi.
Alors, bonjour. Je sais pas si ça marche encore. Bonjour. Alors, moi, j'ai, par rapport à votre plan des usages, pour contrebalancer un peu ce que vous dites, j'ai l'impression qu'en fait, il n'y a pas grand-chose de nouveau, dans le sens, je m'explique, c'est-à-dire que dans tout ce qui est veille et réseau de bibliothécaires, ces idées-là reviennent sans cesse, en fait. Et donc, ça me pose deux questions. Est-ce que vraiment les usagers, alors là c'est intéressant pour le coup si la réponse est oui, est-ce que vraiment ce sont les usagers qui ont fait remonter ces usages, enfin ces besoins-là, tournoi de jeux vidéo, mal tournante, besoin de télécharger, médiateur numérique, etc. Et là pour le coup ça veut dire que la réflexion des bibliothécaires globales en France est plutôt pertinente puisque c'est les questions qu'on se pose. Et est-ce que vous n'avez pas eu aussi, dans quelle mesure vous avez intégré par rapport à ce que vous disiez, les expériences qui peuvent être faites à l'étranger avec le fameux modèle des bibliothèques anglo-saxonnes qui organisent des cours de découpe de port, qui enlèvent tous les fonds classiques de leur médiathèque ou qui prêtent une prostituée ou un policier pour une demi-heure pour qu'on puisse poser les questions et avoir l'information à la source. Et donc, ce sont des exemples réels hein, qui ont été expérimentés. Et du coup, je me demandais dans quelle mesure cette information-là c'était retraduite aussi.
Alors, sur le plan des usages, je précise que ce qui s'est passé, c'est que la première semaine, effectivement, on a rencontré toutes ces idées qui circulent dans le monde des médiathèques. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup. Et notre position, notre posture, ça a été plutôt de dire, bon, toutes ces idées-là qui sont dans l'air, mais qui ne sont pas forcément enracinées quelque part, si on les enracine à Lezoux, qu'est-ce que ça donne ? Donc, c'était de faire se rencontrer ces idées qui gravitent avec un territoire, avec une situation locale. Je maintiens quand même qu'il y a 2-3 idées qui, à mon avis, sont vraiment innovantes. Vous en jugerez en regardant le plan, mais je suis d'accord pour dire qu'il y a un paquet d'idées voilà, qui circulent. Et je vais répéter un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Les usagers n'expriment pas forcément des idées clés en main. C'est-à-dire qu'ils expriment des besoins, on discute, etc. On croise ça avec, effectivement, les idées qui circulent dans les milieux des médiathèques. Et on les incarne à travers, il y a des idées, on les a reprises telles quelles. Hein, l'idée, tout l'espace central là, qui est l'espace de convivialité citoyenne ou de citoyenneté conviviale, ça, c'est pour moi, c'est vraiment les idées. C'était une demande forte à Lezoux, bon, qui a un territoire qui a pas vraiment de lieu, il n'y a pas un lieu de vie, donc c'était encore plus adapté au territoire. Et puis il y a d'autres idées qu'on a un peu prises, qu'on a déformées, augmentées, etc. Mais on a toujours eu un dialogue, c'est-à-dire qu'on les a mises en forme et on les a proposées. C'est-à-dire le plan des usages, il a été présenté, on ne l'a pas fait après, a posteriori, en disant, bon, bah, regardez, voilà. Donc on l'a soumis au débat. Moi, j'étais content parce qu'à la troisième semaine, il y a quand même... il disait, bon, bah, si on a ça à Lezoux, tiers, ils vont être minables, quoi. C'était la... Bon, on ne devrait pas dire ça, parce que la compétition de territoire, c'est mal et tout, mais ça fait plaisir, quoi. Donc il y avait ça quand on est allé au collège, qu'on a dit qu'on allait organiser un tournoi de jeux vidéo en troisième semaine. Les gamins, ils ont fait « Ouais, super !» Et on en a eu beaucoup qui sont venus avec les parents, parce que l'idée, c'était apprendre à tes parents à jouer aux jeux vidéo. C'était pour donner un côté un peu intello au truc. Il y avait un illustrateur de jeux vidéo qui est venu faire une conférence au début. Il a tenu un propos un peu... C'était une conférence un peu longue, un peu... Bon, il montrait des petits bonhommes et tout, donc ça marchait, mais... Il y avait des enfants assez jeunes, hein, de 9-10 ans, ils ont été captivés de jusqu'au bout, quoi. Et il a parlé du coup du monde du jeu vidéo, comment ça se passe les illustrations, comment on dessine. Il avait amené des originaux, donc il y avait un vrai travail de... Voilà, c'était pas juste, on fait un tournoi de Mario Kart, quoi. Pardon.
Alors, excusez-moi, mais je suis gardien du temps et il y a d'autres ateliers et conférences derrière et il nous reste donc que 5 minutes. Donc, je suis désolé pour les questions que je ne pourrais pas prendre, mais je voulais laisser à chacun aussi la possibilité de dire un dernier mot là pour conclure. Du coup, je commence. Je suis désolé, mais... Hein, oui, mais on me... j'entends bien, mais si je déborde, après on va me dire on met en péril les autres. Et c'est vrai, bon, si c'est la BF Rhône-Alpes qui m'autorise, alors dans ce cas-là, mais c'est bien parce que ça, j'ai la bénédiction. Donc très courte, s'il vous plaît.
Oui, j'ai une question qui est extrêmement pratique. En fait, j'ai tout à fait bien compris le plan d'usage de la médiathèque. Je saisis moins bien le lien concret au travail qui va devoir se faire à un moment donné de programmation, de transcription de ces usages-là dans l'espace, très probablement avec des demandes de modularité, de polyvalence des locaux. Mais à un instant T, vous allez devoir figer vos plans de fonctionnalité pour faire travailler
alors,
le programme.
Donc je vais laisser Jean-Christophe répondre. On prendra d'abord, si Françoise veut dire un mot. Simplement moi, en guise de conclusion, et avant de laisser cette question épineuse, je reviens sur la question précédente qui est très intéressante et qui finalement est quelque part rassurante. Ce que je voulais dire par là, c'est que quand on va chez un médecin, il n'invente pas forcément les thérapeutiques. Hein, c'est pas forcément, par contre, il trouve la bonne thérapeutique selon le diagnostic qu'il a fait et donc la personne qu'il a en face de lui. Et moi, quelque part, c'est ça aussi que j'ai trouvé comme vertu à cette résidence, c'est que cette veille qu'on fait, toutes ces idées qu'on teste, elles sont intéressantes, mais comment on fait pour les adopter et les adapter dans un contexte, sur un territoire, dans une équipe, là où on pourrait suivre toujours, aller dans toutes les nouvelles idées, toujours à fond, sans jamais en faire de lien entre elles. Donc, je trouvais que ce n'est pas négatif qu'on retrouve des idées qui se font ailleurs ou qui viennent de la veille des bibliothécaires, mais au contraire, là, elles ont été travaillées dans une autre dimension et qui permet aux bibliothécaires de ne pas en faire un gadget, à mon avis. Un gadget nouveau. Moi, en tout cas, ça m'a permis de pas faire de voilà, d'arrêter un peu le côté gadget, mais de voir en quoi c'était lié à la bibliothèque, quoi.
La question que vous posez, c'est ce que je suis en train de. Enfin, je travaille là-dessus tout de suite, et depuis que je suis en poste, c'est ça. Ça prend tout de suite une autre dimension parce que je viens de rencontrer pour la première fois l'architecte. Voilà. Donc là aussi, on doit traduire. Voilà, on doit traduire des idées avec un architecte qui a réagi à un programme, le programmiste, qui a déjà été réalisé. Ça a été fait. En termes de calendrier, on va dire ça comme ça, le programmiste a fait son travail. La 27e région et les 3 semaines de résidence sont arrivées à Lezoux. Il y a eu un court délai entre la fin de la résidence et le document que devait rédiger et finir le programmiste pour être transmis dans le cadre du concours d'architecte. Voilà. Donc il y a déjà une partie. Alors, attention, là aussi, c'est compliqué d'en parler parce que on l'a dit un peu tout à l'heure, il ne s'agit pas de dire on va prendre un peu de ci pour en mettre un petit peu de là, on va saupoudrer un peu de poivre, un peu de sel, un peu de sucre, et puis on verra ce que ça fait. Il s'agit, là aussi, je le répète, on est peut-être sur des mots, mais ils ont du sens, quoi. Hein, sur l'esprit et la philosophie qui a véhiculé pendant ce travail de résidence-là, sur la manière dont la population a eu droit de parole, sur la manière dont les usages qui ont été exprimés par la population allaient pouvoir, à un moment donné, prendre vie au cœur, au sein de l'équipement. C'est le travail qu'il y a maintenant à faire avec l'architecte. Vous les connaissez tous, vous savez comment on travaille avec un architecte, c'est pas toujours facile. C'est un travail qui doit être fait avec l'équipe de bibliothécaire qui travaillera dans ce lieu-là, qui aura peut-être pour le coup, en termes de je vous le disais aussi tout à l'heure, on a parlé d'empathie. Voilà, alors, je pense qu'on va travailler beaucoup sur des savoir-être de bibliothécaire pour le coup, parce qu'il va falloir mettre en mouvement les usages qui ont été évoqués par la population. Oui. Alors, je n'ai pas de réponse là encore très, très claire à vous donner, parce que moi je continue pour le coup aussi à être dans la. Ben voilà, dans la tentative de réponse, oui.
Non, moi je trouve que le côté positif de cette résidence, c'est justement d'avoir mis ensemble des gens qui finalement se parlent pas si souvent que ça. Les habitants, les experts professionnels, les élus, d'autres types de techniciens. Et en tous les cas, pour les services du conseil régional, qui sont des services souvent, dans toutes les régions relativement cloisonnées, là, ça a permis effectivement de donner un nouvel éclairage aux bibliothèques pour ces gens qui, en fait, souvent instruisent des dossiers d'équipement, des dossiers de fonctionnement et vont donner l'argent pour que ça fonctionne ou que ça sorte de terre. Donc moi, je trouve ça plutôt positif de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle image de la bibliothèque qui a été ils ont respiré un nouvel air de la bibliothèque ou une nouvelle ère de la bibliothèque. Et du coup, ça, c'est plutôt positif. Et de ce point de vue-là, c'est à mettre en avant, je pense, quand on a affaire aux techniciens des régions ou aux techniciens de la commune ou de la communauté de communes sur laquelle vous travaillez. Voilà.
Damien, tu veux dire un dernier très court ? Désolé, non, avant qu'on se quitte.
Moi, c'est plus au-delà du sujet de la médiathèque. Enfin, nous, ce qu'on amène en fait dans l'action publique avec le design de service public, c'est vraiment l'approche expérimentation, et je pense que ça c'est important, de se dire, allez, il faut tester des choses, et il ne faut pas débattre 107 ans avant de savoir si une idée elle est bonne, elle n'est pas bonne, si c'est légitime d'eux ou pas légitime d'eux. Je pense que ça, il faut faire, et il faut prendre le temps de regarder ce qui a été fait et d'analyser ça comme ça, et d'avancer en faisant en fait. Et ça, ça veut dire qu'on a le droit à l'erreur, en fait. C'est important d'avoir le droit à l'erreur, de dire, bon, bah, si je fais une expérimentation, si j'essaye de, par exemple, proposer des contenus libres de droit aux usagers de ma médiathèque et que ça ne marche pas, que ce n'est pas bien fait, qu'il n'y a pas de retour, bah, ce n'est pas grave, c'est ça l'expérimentation. On a le droit de faire erreur. Et il y a l'idée qu'il faut garder une certaine plasticité dans les expérimentations, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose, le coup des livres de cuisine, on ne savait pas trop pourquoi on a fait ça, on a dit, allez, est-ce que vous voulez bien amener des livres de cuisine que vous êtes prêts à prêter ? Paf, on a 150 livres en 3 jours. Après, on ne savait pas quoi en faire, mais bon, je pense qu'on peut attendre. Voilà, ça donne des idées, quoi. Donc, bon. Ouais, c'est ça, c'est voilà, faire et analyser, critiquer, puis refaire, et puis voilà.
Bon, bah, comme vous l'aurez compris, sur le blog, il y a la recette, en parlant de livres de cuisine. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre, à nous solliciter. Merci de vos questions, de votre participation, de votre attention, et à suivre, alors. Merci. Et on a tenu les délais. Alors qu'on a commencé en retard.
Je vais tout mettre sur le bureau du PC.